Bonjour tout le monde. OK. J'allais dire on est en onde, mais on n'est pas en onde. Mais on est en vie. Amen. Merci beaucoup, William. C'était excellent. Beaucoup aimé ton illustration. Puis ce matin, je pensais à l'illustration à William, sa prière, que Dieu, on sait qu'une des images pour l'esprit, c'est un courant d'eau vive, hein? C'est un courant d'eau vive. Puis ce courant-là, il est vaste, il est long. Et puis, ce que j'aimerais que vous fassiez ce matin, qu'on fasse ensemble, c'est qu'on se dirige ensemble vers le ruisseau, vers le courant d'eau vive. Suivez-moi. On va aller s'abreuver. On va aller retrouver ce courant-là, puis s'abreuver dedans. Amen. Ce matin, on poursuit notre série sur l'espérance du croyant. Est-ce que l'être humain peut vivre sans espérance? Non, impossible. Impossible pour un être humain de vivre sans espoir. Si on enlève tout espoir à un être humain, c'est la fin. Est-ce qu'il y a une réelle espérance en dehors de Dieu? Non, impossible parce que l'être humain ne connaît pas l'avenir, n'a aucun contrôle sur son avenir, et donc... toute espérance devient illusoire d'une certaine façon. Des fois, ça se concrétise, des fois, non. Mais l'espérance que Dieu donne, est-ce qu'elle est certaine? Oui, amen. C'est une assurance de quelque chose qui est sûr d'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses et Dieu est au contrôle de toutes choses et Dieu tient toujours sa parole. Et c'est ce que l'on est en train de voir avec la série sur l'espérance. Et voici notre verset thème. Que Dieu, on va le lire ensemble, OK? Puis moi, j'ai cru bon de le mémoriser, puis je vous invite à faire le même. C'est vraiment bénéfique. Disons-le ensemble. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Dieu est l'auteur de l'espérance. Et qu'est-ce que ça nous communique ici? Dieu veut te donner sa paix et sa joie par le fait que tu saisisses cette espérance-là, que tu comprennes davantage que cette espérance-là déborde dans ton cœur. Mais ce n'est pas un acte humain, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fait que, on reviendra à ça tantôt. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous attendez la visite de quelqu'un que vous aimez, là, il y a comme une espèce de fébrilité, hein? Il y a comme une anticipation à ça, là. Vous recevez des bons amis à souper ou de la famille pour la fin de semaine. Puis là, vous êtes dans la joie, dans l'anticipation. On guette à la fenêtre, on guette les voitures qui passent. C'est-tu la bonne couleur? On surveille les signes. Est-ce que c'est des phares le soir? Ça peut être des phares de lumière qui arrivent. Ah, ils arrivent. Ou encore, je ne sais pas si vous avez déjà attendu quelqu'un à l'aéroport. On surveille les atterrissements sur le panneau. Puis là, on s'installe où les gens arrivent, où est-ce qu'ils sortent. On surveille. Ils nous ont dit qu'il allait porter un manteau bleu, un chapeau jaune. C'est ça. Mon style. La démarche typique, des fois, on reconnaît quelqu'un à sa démarche. Hein? Moi, mon père, là, j'étais capable de le reconnaître à très, très, très loin parce qu'il marchait droite. Et ça, c'est mon père. Fait que on guette les signes que quelqu'un va arriver. On le fait aussi pour la météo, hein? La météo, nous, quand on sort en vélo, on fait beaucoup de vélo, ma femme et moi, on guette toujours, on vérifie toujours la météo. Quand on sort, on check aussi les nuages. L'autre soir, je pense que c'est lundi soir, je suis sorti, j'avais envie de faire une bonne randonnée, là. Monter à Saint-Fé, aller-retour. Là, je sors dehors, je mets mon pied sur la pédale, je regarde, hop là, vers le nord, là, c'était... couvert, là, un gros nuage noir. Je pense que je vais changer de plan. Des fois, on sort, puis pendant la journée, je surveille le ciel, je note où sont les nuages, de quelle façon qu'ils voyagent. Puis assez souvent, j'ai réussi à éviter ou à contourner les nuages. Mais pas toujours. Ce matin, on va parler du retour de Christ. Est-ce que tu anticipes son retour? Est-ce que tu le guettes? Est-ce que tu vois les signes avant-coureurs? Mais pour commencer, qui a dit que Jésus reviendrait? D'où nous vient cette notion? Est-ce une invention de l'Église ou de ses disciples un peu trop zélés? Une légende qui tire son origine des spéculations antiques? Sur quoi se base cette espérance? Est-elle réelle ou illusoire? Prions. Père Dieu Tout-Puissant, souverain Créateur du ciel et de la terre, nous nous tournons vers toi ce matin. Nous nous tournons vers toi nos regards. Et comme notre frère William disait, Seigneur, toi, tu es la source d'eau vive et on veut s'approcher, s'abreuver de ta source, Seigneur. Viens nous instruire par ta parole. Viens nous réanimer par ton esprit. Seigneur, viens remplir nos cœurs de ta joie et de ta paix par cette espérance qui débordera dans nos cœurs par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Alors, d'où nous vient cette espérance? D'où nous vient cette idée du retour de Jésus? Puis j'ai entendu quelqu'un, Richard, le dire tantôt. C'est Jésus lui-même, premièrement, qui déclare devant le grand prêtre lors de son procès qu'il adjurait de dire la vérité, s'il était ou non le Messie promis. Jésus dit « Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Donc, c'est Jésus lui-même qui le dit. Bon, en passant, où est-ce qu'on est rendu dans notre série? J'ouvre une parenthèse. On est rendu dans la deuxième partie, la deuxième section de notre série. On a vu la première section, c'est l'espérance de recevoir un corps nouveau, un corps ressuscité, un corps qui est imperméable à toute maladie, à la mort, un corps glorieux comme le corps de Jésus-Christ. On a vu ça pendant plusieurs semaines. Après ça, maintenant, on est en train d'étudier c'est quoi le royaume qu'on va hériter, le royaume de Dieu qu'on va hériter. Puis, dans cette deuxième section-là, on a vu que le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume terrestre qui vient s'établir sur la terre, qui va remplacer tous les systèmes gouvernementaux humains qui ont existé. Mais il fallait d'abord que Jésus vienne régler le problème de la révolte dans le cœur de l'homme. Le royaume est d'abord spirituel avant qu'il soit terrestre. Mais il est les deux, à la fois spirituel et à la fois terrestre. Et ce matin, on va voir que ce royaume terrestre-là s'inaugure à la venue, au retour de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que le royaume va s'inaugurer. Bon, c'est ça. C'est que dans la vision de Daniel, dans le chapitre 3 qu'on a étudié ensemble, il est mention de ce Fils de l'homme. Quand Jésus dit aux pharisiens, « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel », d'où est tirée cette idée-là? De quoi il parlait? Pourquoi les gens étaient scandalisés? Pourquoi ils ont dit « à mort à Jésus ». Tu blasphèmes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus faisait référence à Daniel chapitre 3, où ce que dans la vision de Daniel, le roi Nebuchadnezzar avait une vision d'une statue qui représentait tous les royaumes à travers les histoires qui allaient venir. Lui, c'était la tête d'or. Après ça, il allait avoir les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains, et enfin une coalition de nations. Et puis dans la vision, il arrive une grosse pierre de nulle part qui frappe la statue à ses pieds, qui fait revoler la statue en miettes, qui est pulvérisée, et cette roche-là devient une montagne qui remplit toute la terre. Et cette montagne-là, c'est un royaume éternel, de que Daniel dit, le royaume de Dieu. Et dans Daniel chapitre 7, on revient avec une autre illustration où ce que c'est des animaux et que finalement, à la fin, il y a le Fils de l'homme qui se présente devant le trône de Dieu et ce Fils de l'homme-là, on lui donne l'autorité, la royauté éternelle. Donc, c'est à cette référence-là que Jésus, ce passage-là que Jésus faisait référence. Daniel 7, « Je regardais encore dans mes visions nocturnes » au verset 13 et 14, Daniel 7, « Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours. » Et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apporteront leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle et ne passera jamais, et quand son royaume, quant à son royaume, il sera jamais détruit. Amen. On peut le dire, amen. Alors, Pierre dit au jour de la Pentecôte, il dit ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est levé pour prêcher, il dit « Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes, alors ce Jésus-là va revenir au rétablissement de toutes choses. » Donc, le royaume que nous attendons est un royaume terrestre. Cette terre-là va être régénérée. Cette terre-là, cette humanité-là, qui a subi les effets néfastes de la révolte de l'homme contre Dieu, bien Jésus-Christ, à son retour, va rétablir toutes choses. Mais qu'en est-il de la venue du Fils de l'homme, de Jésus-Christ le roi? Quand, comment viendra-t-il? Bon, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Maintenant, je veux juste noter quelques petites choses. La première chose, c'est que je veux donner crédit à M. Wayne Grudem parce que je me base beaucoup sur la théologie systématique de Wayne Grudem. C'est une grosse brique, là. OK? C'est des sujets complexes et on a besoin d'aide quand on prépare des choses comme ça. Donc, l'étude de ce matin est basée sur l'œuvre de Wayne Grudem dans son volume Théologie systématique. Ce sont des éléments sur lesquels tous les chrétiens évangéliques sont d'accord, OK? Puis ça, c'est un autre point, c'est que dans ces choses-là, la venue de Jésus-Christ, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de désaccords sur des points. Puis on oublie que sur 90%, on est d'accord. Sur le 90% de ce que la Bible enseigne du retour du Christ, etc., là, les chrétiens évangéliques sont d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On focus sur des choses qu'on n'est pas d'accord, puis on crée des divisions même avec ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan. OK? Je vous le dis, là, c'est l'œuvre de Satan, ça. Pensez pas que c'est spirituel, là, de croire à quelque chose par rapport à la venue de Christ, puis de l'imposer aux autres, puis de vous battre comme ça, puis de penser que vous faites l'œuvre de Dieu, là, vous faites l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan de diviser l'Église. Ce n'était pas l'intention de Christ et ce n'est pas l'intention de l'étude ce matin. Si notre intention, c'est de se gonfler la tête avec des connaissances, puis après ça, être des instruments pour faire l'œuvre de Satan, là, on va fermer ça tout de suite, on va arrêter ça là. Ça est arrivé trop souvent par le passé et il ne faut pas que ça arrive. Mais c'est un danger. Nous allons voir plus tard sur certains points où ce que on a des divergences d'opinion, mais ce sont des détails. OK? Ce sont des détails. Dans l'ensemble, on est d'accord. Je vais vous aviser aussi ce matin qu'on va voir beaucoup d'éléments, mais c'est un survol ce matin, OK? C'est un survol. On ne pourra pas tout répondre à toutes les questions. Vous allez avoir des questions en sortant d'ici. Je suis désolé. Vous allez devoir attendre parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Et on n'a pas toutes les réponses non plus. Il faut se le dire, ça. Il faut se l'admettre. Ça marche? Mais j'espère, par la grâce de Dieu, dans les prochains mois, pouvoir faire le tour de la question. Mais je vais tenter de vous présenter les grandes lignes sur lesquelles tous sont d'accord. Et là où il y a des divergences sur des points de vue, bien, vous présenter les différentes positions. Le but, ce n'est pas de se diviser en petits camps, mais de s'unir autour de notre espérance commune. Vous savez, là, on a vu le but, là, tantôt, là. Dieu veut nous donner une espérance. Une espérance qui remplit notre cœur de joie et de paix. Il ne veut pas que ça devienne un sujet de dispute, là. C'est de passer complètement à côté du but, là. Ça marche? OK, on poursuit. La phrase sommaire, pour ceux qui sont nouveaux avec nous ce matin, je donne toujours le punch du message au début. Comme ça, là, ben vous savez de quoi on va parler. La phrase sommaire est voici. Le royaume de Dieu futur débute au retour du roi Jésus. Ça a du sens? Hein? C'est quand le roi arrive que son royaume commence. OK? Et le retour de Jésus-Christ sera visible soudain, accompagné de jugements, précédé de signes avant-coureurs et attendu ardemment par ceux qui l'aiment. Donc, c'est ça qu'on va voir ce matin. Donc, le retour du Christ sera premièrement visible et corporel. Dans son discours sur le mont d'Olivier dans Matthieu 24, 25, juste avant son arrestation, alors que ses disciples lui posaient la question sur qu'est-ce qui serait le signe de sa venue et de la fin du monde, Jésus leur dit, « C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit que sa venue va être visible de tous, précédée d'un signe dans le ciel, le signe du Fils de l'homme. Bon, encore là, il y a des gens qui pensent que c'est la croix. Hein, ça se pourrait. C'est quoi le signe du Fils de l'homme? Ben, ça se pourrait que ce soit la croix. Ça se pourrait que ce soit la pierre qu'on a vue dans Daniel. Hein? La pierre qui vient là. Bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une couronne. Peut-être que c'est le cheval blanc, parce qu'on sait qu'il s'en vient sur un cheval blanc. On ne sait pas, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est que ça serait visible. Le signe du Fils de Dieu va être visible. Tout le monde va dire, oh! C'est Jésus qui revient. Et après ça, Jésus va paraître dans la gloire avec beaucoup de puissance sur les nuées. On se rappelle aussi que Jésus a dit aux leaders spirituels tantôt, là, « Vous verrez le Fils de l'homme venir dans la gloire. Vous verrez. » Ensuite, voici, l'Apocalypse nous dit, « Il vient au milieu des nuées et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen, tout œil le verra. Ça va être visible. Ensuite, dans Acte 1, l'ange dit aux hommes, aux disciples qui ont vu Jésus monter, il dit, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » De la même manière que vous l'avez vu monter. Fait qu'ils vont, on va le voir redescendre. C'est l'ange qui dit ça à l'ascension de Jésus. On poursuit. Une dernière référence. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 16, « Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que l'ange... la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. » La venue de Christ est visible et corporelle, ça veut dire en personne, dans son corps ressuscité. Ceci, pourquoi on insiste sur ce point? Bien, on insiste parce que l'Écriture l'enseigne, mais aussi parce que dans le passé, dans les années 1800, il y a eu un courant qui a englobé tous les milieux presque de théologie universitaire, c'est le courant libéral. Le courant libéral disait que tout ce qu'on voit dans la Bible qui est surnaturel, bien, ça se peut pas. Carrément, ça se peut pas. OK? Fait que tous les miracles de Jésus, on essaie de les expliquer avec des faits scientifiques ou des... On dénigre, autrement dit, tout ce qui est surnaturel, ça ne se peut pas. Fait que la venue de Jésus-Christ, corporellement, ben voyons donc, là, ça ne se peut pas qu'il veut dire ça. Là. Fait que, on a enseigné, on enseigne encore dans ces milieux-là, que le royaume de Dieu, ben, finalement, c'est l'enseignement, c'est son amour qui va être graduellement de plus en plus accepté dans le monde. C'est ça son règne, c'est ça sa venue. Là. Mais non. C'est clairement pas ça. Ces versets exposent clairement la vérité que Jésus revient visiblement et corporellement dans son corps glorifié, contrairement aux enseignements des chrétiens libéraux qui nient son retour prétendant que c'est plutôt son esprit, à travers l'acceptation graduelle et progressive de ses enseignements, qui vient emplir la terre, visible et corporelle. Avez-vous hâte? Avez-vous hâte de le voir? Amen! Amen! Visible, on va le voir. OK. Le retour du Christ aussi, il est soudain, soudain. Jésus dit dans Matthieu 24, il y a beaucoup d'éléments dans Matthieu 24, 25, là, OK? Si vous voulez aller lire après, là, allez voir là. Jésus dit, « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » Ils ne se doutèrent de rien. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire là, dans le temps de Noé, là, les gens... Bien, ils continuaient leur vie, leurs activités normales. Hein? Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils donnaient leur fille en mariage, ils faisaient tout normal jusqu'au jour même du déluge. Écoutez bien, le jour même. Là. Et bien, imaginez le jour même. Le déluge s'en vient. Là. Puis tu vas à tes activités comme si rien n'était. Oh! Et il dit, ça va être la même chose. Lorsqu'il revient. Ça veut dire que c'est soudain. C'est inattendu. Jésus dit encore, il continue, « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 24, 37 à 44. Un jour, vous n'auriez pas imaginé. Le retour du Christ est soudain. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil dans Matthieu 25, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Encore, dans Marc 13, quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. En passant, j'ouvre une parenthèse, les témoins de Jéhovah ont utilisé ce passage pour dire « Ah! Jésus, ça ne peut pas être Dieu, il ne sait pas tout. » C'est vrai. Mais Dieu dit aussi dans l'Ancien Testament, « Vos péchés, vos offenses, je les ai oubliés. » Fait que ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu parce qu'il ne sait pas tout. Non, Dieu peut oublier des choses volontairement. Le Fils de l'homme peut volontairement ne pas savoir quelque chose. Il choisit de ne pas savoir quelque chose. That's it. Fait qu'il volontairement laisse ça au Père. Seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Tenez-vous donc en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. OK. Ensuite, Luc 21. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop bien boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Un poisson qui nage dans l'eau, là, il ne sait pas qu'il y a un filet qui va s'abattre sur lui. Là. Un filet, c'est soudain, c'est inattendu. Ça te prend au dépourvu. Et ce passage-là me parle particulièrement. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête un peu ici puis qu'on s'interroge. Jésus dit, à force de trop bien manger, à force de trop bien boire, à force de trop vous tracasser des choses de la vie, là, qu'est-ce qui peut arriver? Là? C'est que tu t'endormes. Tu t'endormes spirituellement et tu ne veilles plus son retour. Tu ne veilles plus son retour. Tu ne vis plus en fonction. Je me parle moi-même ce matin-là. Je ne vis plus en fonction du retour de Christ. Je vis en fonction de ces choses-là. C'est quoi qu'on va manger à soir? C'est quoi qu'on va faire demain soir? C'est quoi qu'on va faire en fin de semaine? Ah, il faut faire ci à la maison, il faut faire ça, il faut faire arranger ça, faut rénover ça, j'aimerais ça m'acheter ça, j'aimerais ça faire ça. Force est d'admettre, frères et sœurs, qu'on vit dans un contexte de surabondance. Jamais les êtres humains ont vécu si bien, malgré les problèmes, là. On est des foodies, puis on a, tu sais, jamais autant d'abondance au niveau de la nourriture, jamais autant de variété, jamais autant de recettes au bout des doigts. Jésus nous met en garde. Il nous met en garde. À force de trop bien manger, de trop bien boire et de trop vous tracasser des choses de la vie, ben, ma venue va vous pogner à l'improviste, comme ceux qui ne me connaissent pas. Mais ça qu'on va voir aussi à travers ces versets-là, c'est qu'il y a quand même une distinction, là. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure de la venue de Jésus-Christ, mais on ne devrait pas être si surpris que ça par opposition à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une différence quand même, là. C'est ça qu'il dit. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Il dit, sinon ce grand jour vous surprendra à tout coup. Fait que c'est on ne devrait pas, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, mais on ne devrait pas être surpris, là. On ne devrait pas être pris à l'improviste comme le reste de l'humanité qui ne connaissent pas Dieu. On poursuit. Le retour de Christ est soudain. Vous savez fort bien vous-même, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 2 à 6, que le jour du Seigneur viendra de façon inattendue, comme un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix, paix », alors précisément la ruine fondra sur eux. Comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Bon, paix, paix, pourquoi paix, paix? Bien, je pense que, comme beaucoup de gens, ça fait référence à la statue de Daniel. À la fin, les jambes, l'Empire romain, mais les pieds, on voit que c'est argile et fer. Et Daniel dit que c'est parce que les hommes ont fait des alliances. Ils ont fait des alliances, mais c'est fragile. OK? Et puis, comme le fer ne se lie pas à l'argile, ça demeure fragile. Mais ils font des alliances. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Paix, paix. On va finalement avoir atteint une certaine paix sur la terre, sans Dieu, évidemment. Hein? Et puis que là, à ce moment-là, quand les gens vont dire « paix, paix », la ruine fondra sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte. Qui a été enceinte ici? OK, William, baisse ta main. Les femmes! Est-ce que vous savez quand ça va vous pogner, les douleurs, là, pour l'enfantement, quand le travail va commencer? Êtes-vous capable de prédire la date, l'heure, le jour? Même votre médecin, il ne peut pas. C'est à moins que ce soit provoqué. Ça veut dire que ça arrive, là, soudainement. Même si tu l'attendais, ça arrive à un moment, ça attrape. Notre Michael, qui est né en 94, on était justement assis à table en train de souper. Lorraine me regarde. Oh! Mes os viennent crever. Ah. Ouais, ça, j'ai oublié de dire, on était avec des invités. C'est ça. C'était pas un bon moment. Et là, j'ai dit, attends-moi le dessert, là. Non, on est parti à l'hôpital. Comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera, mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Voyez-vous? Voyez-vous, là, il y a quand même une distinction, là. Je savais que ma femme allait avoir des douleurs. 9e mois, ça sent bien, là. Fait que je n'étais pas, ben voyons donc, je n'étais pas là. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu fais ça, là? On a des invités. Non, je m'y attendais. Mais imagine un gars qui ne sait pas que sa femme est enceinte. Et vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de lumière. Nous appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons pas donc comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, nous répète Pierre. Jacques nous dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche, est proche. Et voici ce que dit Jésus, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre, Apocalypse 22, 7. Donc, la venue du Seigneur Jésus est quoi? Visible et corporel. Deuxièmement, soudain, son retour. Et troisièmement, on va voir c'est quoi? Précédé des signes avant-coureurs. OK. Bien là, ce matin, c'est comme je vous dis, là, ça va être un survol. OK, je suis désolé. On ne peut pas aller dans le détail dans toutes ces choses-là. Ça prendrait toute la journée. OK. Mais c'est quoi les signes avant-coureurs? Premièrement, l'Évangile prêché à toutes les nations. C'est dans Matthieu 24, 14. Il faut d'abord que cet Évangile, nous dit Jésus, soit prêché à toutes les nations. Comme je l'ai dit là tantôt, Matthieu 24, 25, c'est un passage clé, okay, que Jésus enseignait à ses disciples. C'est l'enseignement sur sa venue, l'enseignement sur le mont des Oliviers. C'est connu, là, le message, le sermon sur le mont des Oliviers. Puis il dit dans ce sermon-là, tous les signes, beaucoup des signes qui vont précéder sa venue. Puis un des signes, c'est au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. OK? Alors viendra la fin. Marc 13 aussi. Deuxièmement, la grande tribulation. Bon, ça, c'est un gros sujet. Comme j'ai dit, on ne pourra pas y aller dans ce sujet-là. Mais encore dans Matthieu 24, au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans un lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes à ces jours-là, qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. C'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, etc. Et c'est après ça que je reviens, il dit. Donc, il y a une grande période de tribulation. Maintenant, cette grande période de tribulation, un des points de détail qu'on va regarder éventuellement, Jésus va venir après, là. Mais est-ce qu'il vient avant pour chercher l'Église, pendant, au milieu, ou en même temps qu'il revient? OK? Fait que ça, c'est trois positions différentes. OK? C'est correct. On ne part pas une chicane là-dessus. Mais tous sont d'accord pour dire qu'il vient après la tribulation, qu'il vient établir son royaume éternel après la tribulation, cette grande période de tribulation. Ça, c'est correct. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça marche? OK. Une grande période de tribulation, comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Puis, quand on lit Apocalypse, on commence à voir c'est quoi, là. Et puis, comme on disait ce matin, on vit déjà les premières douleurs de l'enfantement. Jésus parle de ça, là. Il dit, il y aura des tribulations, des guerres, des famines. Ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Fait que ce qu'on voit, là, les feux de forêt, les guerres en Russie, en Ukraine, les famines, tout ça, là, oui, c'est les commencements des douleurs de l'enfantement. Ça commence. Et ça s'intensifie, comme on disait ce matin. Un autre signe avant-coureur, des faux prophètes, regardez, si vous êtes dans Matthieu 24, regardez au verset 23-24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24, Matthieu 24-24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les choisis de Dieu. OK? Des faux prophètes opérant des miracles. On poursuit. Quel autre signe avant-coureur? Des signes dans le ciel. On reste dans Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, donc là, la grande période de tribulation est terminée, qu'est-ce qui se passe? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Wow! Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, comme on a dit tantôt. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir. Fait que des signes dans le ciel. Ensuite, si vous êtes avec moi, 2 Thessaloniciens, 2:3. Ça, c'est un autre passage clé sur le retour de Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est un autre passage clé qui vaut la peine d'étudier. Il dit, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » OK, on va reculer au verset 1. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler par une quelconque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » L'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi que ça veut dire apostasie? Oui, c'est un détournement. C'est un détournement de la foi. C'est le grand rejet de Dieu. C'est dans la version sommaire, là, je vais vous le lire dans la version sommaire de Thessaloniciens 2. Il dit, « Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. » Le grand rejet de Dieu, c'est que les gens ont connu Dieu, mais ils se détournent de Dieu. Est-ce qu'on le vit ça au Québec? Est-ce qu'on le vit au Canada? Est-ce qu'on le vit aux États-Unis? Est-ce qu'on le vit en Europe? Oui, on le vit à peu près partout dans le monde. Il y a des exceptions, mais le courant général, là, c'est ça. Et la venue, tout de suite après, la venue de l'homme de révolte, l'homme de perdition, l'antéchrist. Donc ça, ce sont tous des signes avant-coureurs que Jésus ou les apôtres nous disent vont précéder le retour de Christ. OK. Bon. Maintenant, on peut regarder ces choses-là et dire, OK, mais tu m'as dit tantôt que c'était soudain et imprévisible, la venue de Christ. Comment ça se fait que maintenant tu me dis, il y a des signes avant-coureurs? Il faut que ces signes-là arrivent avant que Christ arrive. OK, oui, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Comment résoudre ces choses-là? Bien, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est que, comme on parlait tantôt, que Christ revient pour les chrétiens avant ces signes avant-coureurs-là, avant la grande tribulation, avant le grand rejet, avant tout ça, que Christ revienne pour son Église. Fait que là, c'est clair que, on ne sait pas, il peut venir n'importe quand. OK, ça, c'est une des solutions. OK? Il y a une autre solution, c'est que même au temps des apôtres, il y a plusieurs de ces signes-là qui étaient déjà présents. Regardez dans 1 Jean 2:18. 1 Jean 2:18. L'épître de 1 Jean. C'est vers la fin, là, juste avant l'Apocalypse. Hein? C'est important, frères et sœurs, que vous sachiez où se trouvent ces passages-là. Okay? Pourquoi? Parce que tantôt, quand vous sortez d'ici, dans une journée, dans une semaine, 2 semaines, 3 mois, vous allez dire, « Qu'est-ce qu'il m'a dit encore, Brian, par rapport à ça? » Puis, c'est-tu vrai que Jésus revient de telle façon? C'est quoi l'affaire? Je ne m'en rappelle plus. Ben, il faut que vous soyez fondés dans les Écritures. Fondés dans les Écritures. Pas juste à écouter la voix de celui qui vous enseigne, mais vous-même, allez voir les passages. Matthieu 24, 25, Marc 13, 2 Thessaloniciens 2, etc. OK? Allez, fondez-vous dans les Écritures. Bon, qu'est-ce qu'il dit 1 Jean 2? 1 Jean 2, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Non, je ne suis pas dans... Oui, 2, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Avant, OK, avant. On l'a dit ça. L'antéchrist doit apparaître avant que Jésus revienne. Fait que c'est ça qu'il dit. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir avant. OK? Or, dès à présent, beaucoup d'antéchrists sont là déjà. Sont là déjà. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Oh, OK. Fait que Jean, ce qu'il est en train de dire, tous ces signes avant-coureurs-là, là, ben, dès la première génération après Jésus-Christ, c'est les disciples qui sont là encore sur la terre, ils disent, regardez, il y a déjà des antéchrists qui se pointent. Là. C'est pour ça qu'on sait qu'on est dans la dernière heure. OK. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous ces signes avant-coureurs-là ont toujours été présents dès la première génération. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils s'intensifient. Ils s'en vont en grandissant. Okay. L'Évangile prêché à toutes les nations. Ben là, tu dis, Brian, l'Évangile n'était pas prêché. Ben, écoute, dans les premiers siècles, là, qu'est-ce qu'ils savaient du monde? Ils connaissaient juste le tour du bassin méditerranéen. C'était ça leur monde. Et dès la première génération, déjà, l'Évangile était prêché. Paul, il semait l'Évangile à tout vent dans toutes les régions du monde connu. Fait que déjà, on aurait pu dire, si on était là en tant que chrétien dans le premier siècle, l'Évangile est prêché partout, à toutes les nations, Jésus pourrait revenir. Vous voyez? Mais ce signe-là s'accomplit de plus en plus de nos jours. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'Évangile est arrivé dans toutes les nations. Mais on sait par contre qu'il y a encore des tribus dans certaines régions du monde, reculées dans les forêts, etc., qui ont jamais entendu la parole encore. Il en reste encore. Mais l'Évangile est prêché à toutes les nations. OK? Fait que c'est Jean qui nous donne la clé ici, là, pour comprendre comment ça se fait que si Jésus dit qu'il peut revenir à tout instant, comment ça se fait qu'il y a des signes avant-coureurs? OK. Comme l'Antéchrist. Les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient sûrs qu'Hitler, c'était l'Antéchrist. Hey, tout! Écoute, la méchanceté de cet homme-là, puis il s'acharnait sur le peuple juif. Tout le monde était sûr que c'était lui, pas mal sûr, là. Mais c'était un Antéchrist. Oui, comme Jean dit, plusieurs Antéchrists. Le grand rejet de Dieu. On l'a dit tantôt, on le voit partout, le grand rejet de Dieu. On le vit de plus en plus maintenant. Donc, Jésus pourrait revenir n'importe quand, mais ça s'en va s'amplifiant. Voyez-vous? Fait qu'on ne peut pas jamais être sûr. C'est quand le moment précis. OK. Fait qu'on a vu quoi? Le retour du Christ sera visible et corporel. Deuxièmement, soudain. Troisièmement, précédé de signes avant-coureurs. Et finalement, le retour du Christ sera accompagné de jugement. Retournez dans Matthieu 25. Matthieu 25, 31 à 46. C'est dans ce contexte-là de son retour que Jésus parle du jugement. L'une des places, en tout cas, qui parle avec de plus de précision du jugement à venir. Matthieu 25, à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, OK? Quand le Fils viendra dans sa gloire sur les nuées, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Ils vont l'acclamer. Ça va être le party. Non. Non. Il va les diviser en deux groupes, comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et en passant, les brebis, ça va être un petit troupeau comparativement au bouc qui va être une foule immense. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit. » Et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Le feu éternel, Dieu ne l'avait jamais préparé pour les êtres humains. Il l'avait préparé pour le diable et ses anges. Mais les êtres humains, en rejetant Dieu, ont suivi le camp du diable, ont choisi le camp du diable. Donc, et ça, ça saisit, là, c'est que l'avenue du Christ sera accompagnée de jugement. Son règne débute avec un jugement, un règlement de compte. Et vous me dites, comment ça se fait? Voyons donc, Jésus vient apporter la paix et l'amour sur terre, oui, oui. Mais qu'en est-il du problème du péché? Qu'en est-il des Hitler, des Poutine et des compagnies? Qu'en est-il de ceux qui ont tué des millions de personnes, des centaines de personnes, qui ont dû tuer une personne, qui ont haï quelqu'un dans leur cœur pour tuer quelqu'un? Oh, ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Je n'ai pas tué des millions, des centaines de personnes, mais j'ai haï mon frère pour le tuer. Si on commence à juger c'est qui est méchant, la ligne s'approche, s'approche, s'approche et finit par « Oups, me teindre! » Je fais partie de cette gang-là, moi aussi. La Bible dit « Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous! Mais là, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi les gens ne veulent pas accepter Dieu? Parce qu'il y a tant de mal. Dieu ne peut pas être juste. Je ne veux pas croire en un Dieu injuste. Pourquoi il y a de l'injustice sur la terre, etc.? Oui, il y a de l'injustice. Mais un jour, Dieu va tirer la ligne. Un jour, Dieu va juger. Et de quel côté tu vas te trouver, là? Tu vas-tu te trouver à droite ou à gauche? Ça dépend-tu de ta vie? Non. La Bible dit qu'on est tous pécheurs. Qu'est-ce qu'il dit aux ceux-là qui sont à droite? Bénis de mon Père. Bénis. Ceux-là à gauche, quoi? Maudit. Mais comment ça se fait que ceux-là sont bénis et ceux-là sont maudits? Parce que Jésus est venu porter la malédiction pour ceux qui croient en lui. Jésus, c'est marqué, il est devenu malédiction. Il est devenu maudit de Dieu pour que ceux-là, ceux qui croient en lui, il n'y a plus maintenant de malédiction. Pour eux, ils sont bénis parce que Jésus a porté leur malédiction. C'est la seule façon de s'en sortir. Le jour du Christ, le retour du Christ sera accompagné de jugement. 2 Pierre 3:10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On l'a lu ça. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. On a vu les signes dans le ciel tantôt. Et la terre sera trouvée jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Oh! L'expression « jour du Seigneur », ce n'est pas Pierre qui l'a inventé, c'est tiré de l'Ancien Testament, des prophètes. C'est une expression qui revient souvent, souvent, souvent dans l'Ancien Testament et qui signifie le jour de jugement. Le jour du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur dit, « Vous, là, vous les êtres humains, là, vous avez eu votre temps, vous avez eu votre jour, maintenant, c'est à mon tour. » Vous avez eu votre jour? Là, c'est le mien. Je vous ai laissé faire tout ce que vous vouliez faire. Maintenant, on va regarder ça. C'est comme Jésus a dit à ceux qui venaient l'arrêter, hein, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, c'est le jour des ténèbres, c'est votre jour. Il a dit ça à ces gens-là qui venaient l'arrêter. C'est l'heure des ténèbres, c'est votre jour. Allez-y, faites ce que vous voulez. Mais il y a un jour qui s'en vient, là. Il y a un autre jour, là. Les Hitler, les Poutine, les Staline, et le petit Brian qui a voulu tuer son frère. Je vais le devoir rendre compte. Ça saisit. Même ceux qui sont les vrais croyants, à qui Jésus dit « Béni, venez hériter du royaume », ils vont aussi avoir un jugement. C'est le jour, le tribunal du Christ. Ça, on voit ça dans 2 Corinthiens. « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra pour ce qui lui revient, ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il a accomplis dans son corps. » Mais ce n'est pas pour un jugement de salut, c'est un jugement des œuvres qu'on aura faites. C'est un jugement pour récompense. C'est une évaluation. Comment on juge une performance athlétique ou une performance artistique, on l'apprécie, puis on y accorde une certaine valeur. Il y a cette évaluation-là à venir pour les chrétiens. Okay? À son retour. Parce qu'il ne peut pas être condamné, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus dit dans Jean 5, 24, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, ne viendra pas dans le jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Déjà. Donc, c'est vrai qu'on pourrait passer encore toute une journée à regarder ces différents jugements-là. Il suffit de dire que lorsque Jésus revient, c'est sans équivoque, ce sera accompagné de jugements. On le voit clairement dans ces passages-là. Et sur ce point, tous les chrétiens sont d'accord. Maintenant, comment réagir à toute cette information-là? L'apôtre Paul nous dit, quant à nous, nous sommes citoyens déjà, du royaume des cieux. Voyez-vous, c'est un royaume spirituel avant d'être un royaume terrestre. Nous sommes déjà citoyens de ce royaume-là. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous délivrer, pas nous sauver du péché, pas nous sauver de la condamnation, nous sauver de la détresse qui s'en vient, nous sauver de notre corps qui nous entraîne toujours vers le péché, etc. Nous sauver le salut final, l'accomplissement de ton salut. Nous l'attendons, elle dit, ardemment. Tu sais, c'est là qu'on vient au début de ce que je disais, quand on reçoit la visite, là, on les attend. On les attend avec ardeur, avec impatience, avec anticipation. Puis on est-tu content qu'ils arrivent, là? C'est ça que ça devrait provoquer en nous, une attente ardente. Ce mot ardent-là, il dit que dans le grec, c'est le même mot qui a été employé quand Siméon, là, vous savez, le vieillard qui attendait la venue du Messie dans le temple, là, puis c'est marqué qu'il attendait le royaume de Dieu, là, c'est le même mot, il attendait ardemment. Il y a un parallèle intéressant à faire entre la première venue de Christ et la deuxième venue. Il y a un parallèle intéressant. C'est pas tout le monde qui croyait que Dieu allait envoyer le Messie, là. Encore bien moins de monde qui l'attendait lors de sa première venue. Mais certaines personnes l'attendaient avec avec ardeur. Siméon, Anne et les autres auxquels ils ont parlé après, là. C'est marqué qu'ils ont parlé à tous ceux qui attendaient. Hein? C'est intéressant. C'est la même chose. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Puis, M. Grudem, dans son livre, il dit, c'est vraiment frappant, là, il dit, le degré d'ardeur avec laquelle j'attends le retour de Christ reflète le degré de mon amour pour lui. Pas vrai? Pas vrai? Si j'attends pas la venue du Seigneur Jésus avec ardeur, là, c'est peut-être parce que mon cœur, j'ai laissé mon cœur s'attacher à toutes ces choses-là du monde, à toutes sortes d'autres choses. Les chrétiens devraient être remplis d'ardeur pour le retour du Christ. Puis c'est une triste réalité, frères et sœurs, de laquelle on a à se repentir, vraiment, là. On a vraiment à se repentir de ça. C'est-à-dire, avouer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Hachi. Avez-vous vu le film Hachi? Hein? Ah, c'est touchant, hein? Le gars, tous les jours, prend le train pour aller travailler. Il revient, son chien, il est là. Il n'y a personne qui a dit au chien, « Va là ». Il n'y a personne qui a dit au chien, « D'attendre là ». Puis le chien, là, il ne bougeait pas de là. Tant que son maître n'arrivait pas, là. Il avait beau être distrait, il avait beau être... Plein de monde, des trains arrivaient, du monde partait, venait. Et lui, il restait là, là. Jusqu'à temps que son maître revenait. Wow! Et qu'est-ce qui est arrivé? Que même après la mort, il allait là à tous les jours. Jusqu'à sa mort. Et puis, ils ont fait une statue de lui, de ce chien-là. Wow! C'est comme ça, attendre avec ardeur. C'est comme ça. Et si on l'attend avec ardeur comme ça, ben on va vivre des vies saintes. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Ça veut dire mis à part, OK? Ça veut dire que tu ne te laisses pas embarquer par toutes sortes d'autres distractions. Tu ne te laisses pas aller à tes désirs, à tes convoitises, à tes ambitions. Lui, là, le chien, là, il aurait pu... Écureuil! Non. Il était focusé sur une chose, puis ça l'empêchait de courir après toutes sortes d'autres choses. Pierre nous dit, je termine avec ça, 2 Pierre 2, 11, 12, « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devrez être attaché à Dieu? » Voyez-vous, attaché. Pourquoi le chien attendait là si ardemment? Il était attaché à son maître. Pour être attaché à son maître, il faut passer du temps avec. Il faut apprendre à le connaître. À être rempli de son amour, à recevoir son amour pour l'aimer de plus en plus. Et là, on va être attaché. En attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue, nous dit Pierre. Prions. Père Tout-Puissant, notre Dieu, Roi de l'univers, merci Seigneur pour ta sainte parole, tes saintes écritures qui nous révèlent ta pensée par ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir révélé ces choses, Seigneur, et nous sommes privilégiés d'être les récipients de cette révélation ce matin. Oui, Seigneur, on veut se courber la tête, te révérer, t'adorer, t'aimer. Toi seul, tu es digne. Toi seul, tu es notre trésor. Toi seul, tu nous as sauvés. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, on te confesse. Nous avons laissé nos cœurs s'attacher à d'autres choses. Nous avons trop bien mangé, trop bien bu, trop laissé notre cœur accaparer des choses de cette vie. Ce matin, Seigneur, on te le confesse. Seigneur, on veut être comme ce chien. Je veux être comme ce chien, attaché à toi, t'aimant de tout mon cœur, t'attendant avec ardeur et me séparant de toute autre chose pour mener une vie sainte, hâtant ton retour. Fais cette œuvre en nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, pour la gloire de Jésus ce matin. Amen. Si vous avez besoin de prière ce matin, que ce soit pour un besoin physique, spirituel, moral, n'importe quoi, vous venez, on est là. Ça nous fait plaisir de prendre soin des brebis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.